Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Mémoricide est un essai politique et culturel de Philippe de Villiers, publié chez Fayard, qui prolonge une veine déjà présente dans ses prises de parole publiques et ses livres précédents. Elle, auteur, y développe elle l'idée que la France subirait une destruction progressive de sa mémoire collective, phénomène qu'il nomme mémoricide, et que l'y relie à une crise plus large de l'identité nationale. Le livre mêle réflexion historique, critique des élites contemporaines et évocation autobiographique, notamment autour de l'enfance de l'auteur, de son expérience de fondateur du Puy du Chou et de son parcours politique. Son objectif est moins de proposer une enquête académique que de formuler un diagnostic militant sur les mécanismes de défacement, de dénigrement ou de requalification du passé, dans une écriture volontiers lyrique et combative. Villiers oppose à ce qu'il perçoit comme une mémoire pénitentielle, une mémoire qu'il juge vitale pour la continuité culturelle et la cohésion civique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le concept de mémoricide comme clé de lecture du déclin. Le cœur de l'ouvrage repose sur un mot forgé pour frapper à l'esprit, mémoricide, défini comme une atteinte volontaire ou organisée à la mémoire collective. Philippe de Villiers présente cette idée comme un processus d'audablation, au sens d'une mutilation symbolique, par lequel une nation perd l'accès à ses récits fondateurs, à ses continuités historiques et à ses références culturelles partagées. Dans cette perspective, l'effacement n'est pas seulement une oubliette naturelle du temps, mais un déplacement actif de ce qui doit être transmis. L'auteur associe ce phénomène à des transformations politiques et culturelles contemporaines qu'il lit comme une rupture de filiation entre les générations. Le concept fonctionne alors comme un cadre général qui relie des sujets très divers, de l'école au langage public, en passant par les cérémonies et les représentations médiatiques. Même lorsque le lecteur ne partage pas interprétation, la notion sert de point de départ pour interroger ce qui fait mémoire commune, comment elle se fabrique, et ce que produit sa fragilisation sur le sentiment d'appartenir à une histoire plus longue que soi. Deuxièmement, mémoire pénitentielle contre mémoire sereine et transmission. Un axe majeur du livre consiste à dénoncer un basculement vers une mémoire que l'auteur qualifie de pénitentielle, centrée sur les fautes, les renoncements et les épisodes honteux, au détriment d'une mémoire plus équilibrée qui transmettrait aussi des réussites, des figures admirables et des continuités. Villiers ne nie pas l'existence de ombre dans l'histoire, mais il critique la hiérarchie des récits lorsqu'elle devient selon lui un principe éducatif et politique. Il relie cette tendance à une perte d'estime collective, à une difficulté à assumer l'héritage et, en conséquence, à une fragilité identitaire. Dans cette critique, l'école. L'historiographie officielle et certaines normes culturelles jouent un rôle central, car ce sont des lieux où se décide ce qui mérite d'être conservé et raconté. Le ton de la transmission traverse alors l'ouvrage comme une question pratique. Que transmet-on nos enfants? Quels repères communs partagent encore des citoyens? Et comment maintenir une continuité sans figer le passé? Le livre invite ainsi à réfléchir à la fonction civique des récits historiques au-delà des controverses politiques qu'ils peuvent susciter. Troisièmement, la critique des élites et du progressisme culturel, l'auteur attribue une part décisive du mémoricide à des élites politiques, administratives et culturelles qu'il accuse de promouvoir l'effacement ou la dévalorisation des héritages, dans son argumentation. L'effacement se traduit par des choix de symboles, de vocabulaire, de commémoration et de récits publics, qui finiraient par modifier la définition même de la communauté nationale. Ce tome prend la forme d'une critique du progressisme culturel, considéré comme un moteur idéologique de rupture et donne une dénonciation de ce qu'il perçoit comme un conformisme des institutions. Le propos inscrit dans un essai de intervention visant à alerter et à mobiliser plus qu'à arbitrer des débats historiographiques au sens universitaire. Il en résulte une écriture polarisante qui peut être reçue comme une mise en garde salutaire ou comme un tableau trop univoque sur le plan analytique. Cette partie du livre permet néanmoins de comprendre comment Villiers relie les questions de culture et de mémoire à des enjeux de pouvoir, et comment il conçoit la bataille des symboles comme un levier politique. Le lecteur y trouve une cartographie des adversaires intellectuels que l'auteur identifie, ainsi qu'une vision du conflit culturel comme conflit central de l'époque. Quatrièmement, récits personnels, Vendée et Puy du Fou comme contre-modèle, mémoricide ne se limite pas à une thèse abstraite, il s'appuie aussi sur des souvenirs et des épisodes biographiques. Philippe de Villiers mobilise son enfance, son ancrage vendéen et son expérience de créateur du Puy du Fou pour illustrer une mémoire vécue, transmise par les lieux, les récits familiaux et les traditions locales. La Vendée apparaît comme un symbole de persistance, d'une identité régionale longtemps caricaturée ou marginalisée. Et comme un espace où une forme de continuité historique a pu être entretenue, le Puy du Fou sans être présente comme un trait de méthode, sert d'exemple de mise en scène populaire de l'histoire, capable selon l'auteur de fédérer et de réenchanter un rapport au passé. Ce fil autobiographique joue plusieurs fonctions. donner chair au diagnostic, montrer qu'une politique de mémoire peut aussi être une pratique culturelle concrète, et opposer à l'effacement une expérience de reconstruction par le récit. Pour le lecteur, cet âge éclaire la cohérence d'un parcours, celui d'un acteur qui s'est voulu à la fois politique et entrepreneur culturel, et qui défend elle l'idée que la mémoire se transmet autant par les œuvres et les lieux que par les discours. En dernier lieu, Résistance, Réfractaire et Horizon de Renaissance, malgré un constat souvent sombre, l'ouvrage ne se présente pas comme un texte de résignation. Vidier insiste sur existence de réfractaires, c'est à dire de personnes qui refusent amnésie et continuent de faire vivre une mémoire commune par elle l'éducation, la culture, les associations, les traditions ou l'engagement civique. Cette figure du réfractaire structure une dimension d'appel. Le livre cherche à maintenir une énergie de résistance face à ce que l'auteur décrit comme un décrochage national. L'espoir proposé n'est pas celui d'une simple nostalgie, mais celui d'une possible renaissance, à condition de réhabiliter des repères, de retisser un récit partagé et de retrouver une confiance collective. Dans ce cadre, la mémoire n'est pas un décor. Elle devient un outil de cohésion et une condition de souveraineté au sens large, culturel, mais aussi plus généralement politique. Même si le livre ne se présente pas comme un programme détaillé, il suggère une orientation, restaurer des continuités et réapprendre à transmettre. Cette partie intéressera particulièrement les lecteurs qui cherchent à comprendre comment un essai identitaire peut articuler critique du présent et mobilisation, en faisant de la mémoire une cause et un moteur de action. En conclusion, Mémoricide s'adresse d'abord aux lecteurs préoccupés par les questions de identité, de transmission et de récit national, ainsi que à ceux qui suivent la vie intellectuelle et politique française. Les lecteurs déjà familiers de Philippe de Villiers y retrouveront un style volontiers lyrique, une posture de vigie et une lecture combative des transformations culturelles. Les lecteurs plus distants pourront y trouver matière à débat, à condition de le lire comme un essai d'intervention, orienté polémique, plutôt que comme un travail académique. Le bénéfice intellectuel principal tient à la centralité donnée à la mémoire, non comme simple souvenir, mais comme infrastructure symbolique de la vie collective. Avec des effets sur la cohésion, elle école les représentations et la capacité à se projeter. Le livre se distingue dans sa catégorie par son mélange de méditation historique, de critique culturelle et de récit personnel, et par l'usage d'un concept fédérateur, mémoricide, qui organise la démonstration et facilite la discussion. Par rapport à d'autres essais sur le déclin ou la crise française, celui-ci met au premier plan la bataille des récits et des symboles et assume une finalité de mobilisation, en appelant à une résistance par la transmission et par des œuvres capables de refaire lien. Si vous souhaitez soutenir Philippe de Villiers, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.